L'émergence du social-nativisme en Europe de l'Est post-communiste. Le cas des pays d'Europe de l'Est illustre clairement le rôle joué par la désillusion post-communiste et l'idéologie concurrentialiste européenne dans l'effondrement du système gauche-droite de clivage politique issu de l'après-guerre. Lors de la transition vers la démocratie électorale qui a suivi la chute des régimes communistes est-européens, les anciens partis uniques au pouvoir se sont souvent transformés en partis de type social-démocrate, parfois en fusionnant ou en se recomposant avec divers mouvements politiques en formation. Malgré l'hostilité d'une part importante de l'opinion, qui pour des raisons compréhensibles n'a jamais cessé de leur reprocher leurs errements passés, ces partis regroupant de nombreux cadres des administrations d'État et des grandes entreprises industrielles exercèrent souvent des responsabilités importantes lors de la première phase de la transition. C'est le cas par exemple du SLD, Alliance de la gauche démocratique, au pouvoir en Pologne de 1993 à 1997, puis de nouveau de 2001 à 2005. Ces mouvements politiques, désireux de tourner au plus vite la page du communisme et de se rapprocher de l'Union européenne, adoptèrent des plateformes programmatiques qui n'avaient souvent de social-démocrate que le nom. La priorité absolue était de privatiser les entreprises et d'ouvrir les marchés à la concurrence et aux investissements venus d'Europe de l'Ouest, afin de satisfaire à marche forcée aux critères permettant d'obtenir l'entrée tant espérée dans l'Union européenne. Afin d'attirer les capitaux, et faute de la moindre harmonisation fiscale au niveau européen, plusieurs pays est-européens, dont la Pologne, mirent également en place dans les années 1990 et au début des années 2000 des taux d'imposition hyper réduits sur les bénéfices des sociétés et les plus hauts revenus. Le problème est que les résultats obtenus à la suite de la transition post-communiste et de l'entrée dans l'Union européenne n'ont pas toujours été à la hauteur des espoirs placés en elle. Compte tenu de la très forte progression des inégalités de revenus, de larges segments de la population se sont sentis tenus à l'écart. Les investissements allemands et français ont souvent généré des profits importants pour les actionnaires, sans que les augmentations de salaire annoncées soient toujours au rendez-vous. Cela a contribué à nourrir un ressentiment important face aux puissances dominantes de l'Union européenne, toujours prêtes à rappeler leur supposée générosité concernant les transferts publics, en oubliant, au passage, que les flux sortants de profits privés qu'elles réalisent en Pologne et dans les autres pays est-européens excèdent nettement les flux entrants de transferts publics. Ajoutons que la vie politique en Europe de l'Est a été marquée par de très nombreux scandales financiers depuis les années 1990, notamment en lien avec les privatisations et impliquant souvent des proches des partis au pouvoir. Plusieurs affaires de corruption exposèrent également les liens supposés entre médias et élites politiques et économiques, en particulier l'affaire Rivine en Pologne en 2002-2004. Liu Rivine, célèbre producteur de cinéma polonais, a été condamné pour avoir tenté de soutirer plusieurs millions d'euros au premier groupe de presse polonais, Agora. Se réclamant du Premier ministre en place, il avait notamment proposé à Agora de monnayer son soutien à un amendement à la loi sur l'audiovisuel. C'est dans ce contexte très lourd que le SLD s'effondra lors des élections polonaises de 2005 avec à peine 10% des voix et que la gauche disparut presque complètement du paysage politique. Depuis les élections de 2005, le conflit politico-électoral se structure en Pologne autour d'un affrontement entre les libéraux conservateurs de la plateforme civique, PO, et les nationalistes conservateurs du parti droit et justice, PiS. Or, il est frappant de constater à quel point les deux électorats, PO et PiS, se sont développés suivant des lignes classistes depuis le début des années 2000 et pendant les années 2010. Lors des élections de 2007, 2011 et 2015, les libéraux conservateurs du PO font leur meilleur score parmi les électeurs aux plus hauts revenus et disposant des diplômes les plus élevés, alors que les nationalistes conservateurs du PiS séduisent avant tout les catégories les plus modestes, à la fois en termes de revenus et de diplômes. Le vote pour le PO est de 20 points plus élevé parmi les électeurs ayant les plus hauts revenus qu'au sein du reste de la population, et de 10 points plus élevés parmi les électeurs plus diplômés, contre moins 9 points et moins 11 points pour le PiS. Quant aux sociaux-démocrates du SLD, qui ne comptent plus guère dans l'équilibre des forces, en 2007, 2011 et 2017, le SLD regroupa moins de 10% des suffrages, leur électorat est dans une position intermédiaire. Ils attirent des votants dont les revenus sont légèrement au-dessous et les diplômes légèrement au-dessus de la moyenne, mais qui, dans tous les cas, apparaissent peu clivés par rapport aux deux blocs PO et PIS. Voir graphique 16.3, 16.4. Vu de Bruxelles, Paris et Berlin, on s'inquiète régulièrement du fait que le PIS se montre souvent hostile à l'Union européenne, régulièrement accusé de traiter la Pologne comme un partenaire de second rang, alors que le PO est le bon élève de la classe européenne, toujours prompt à accepter les décisions et les règles de l'UE et à promouvoir les principes de la concurrence libre et non faussée. On met en avant également avec raison la défense par le PIS des valeurs autoritaires et traditionnalistes, par exemple à propos de son opposition farouche à l'avortement et aux couples homosexuels. Il faut toutefois ajouter que le PIS a mis en place depuis son accession au pouvoir en 2015 des mesures fiscales et sociales favorables aux plus bas revenus, en particulier avec une forte augmentation des allocations familiales et une revalorisation des plus basses retraites. À l'inverse, le PO au pouvoir de 2005 à 2015 avait mené des politiques globalement très favorables aux catégories sociales les plus favorisées. De façon générale, le PIS est moins soucieux que le PO des règles budgétaires et se montre plus dispendieux sur le plan social. En ce sens, le PIS développe une idéologie que l'on peut qualifier de social-nationaliste ou de social-nativiste, s'appuyant à la fois sur des mesures redistributrices sur le plan social et fiscal et sur une défense intransigeante de l'identité polonaise, jugée menacée par les élites sans patrie. La question de l'immigration extra-européenne a pris une importance nouvelle à la suite de la crise des réfugiés de 2015, qui a permis au PIS de s'opposer violemment à la tentative, vite abandonnée, de l'UE de répartir les migrants dans l'ensemble de l'Union. On notera toutefois que la structure classiste des électorats PO et PIS était en place avant que la question migratoire ne fasse véritablement son entrée dans le débat. Il n'est malheureusement pas possible à ce stade de comparer de façon systématique l'évolution de la structure des clivages électoraux dans les différents pays d'Europe de l'Est depuis la transition post-communiste des années 1990, compte tenu notamment des insuffisances des enquêtes post-électorales disponibles. Il existe une grande variété de situations et un renouvellement rapide des mouvements politiques et des idéologies. On notera cependant que la forme sociale nativiste tend à se répandre, avec un mélange d'hostilité absolue à l'immigration extra-européenne, devenue le symbole de ce que les élites bruxelloises honnies veulent sournoisement imposer au peuple, alors même que les effectifs de réfugiés envisagés sont en réalité extrêmement réduits à l'échelle de la population européenne, et un ensemble de politiques sociales visant à démontrer que les socio-nativistes se soucient davantage des classes populaires et moyennes que les partis pro-européens. On observe, en particulier en Hongrie, une configuration voisine du cas polonais. Le pays est dirigé depuis 2010 par le parti nationaliste conservateur Fidesz et son chef Viktor Orban, qui s'est incontestablement établi comme l'un des principaux leaders de l'idéologie nativiste au niveau européen. Bien qu'officiellement membre du même groupe parlementaire européen que la CDU allemande et les partis de centre-droit des différents pays, il n'a pas hésité, depuis la crise de 2015, à tapisser son pays de violentes affiches anti-réfugiés, ainsi que de posters géants dénonçant l'influence néfaste de George Soros, milliardaire d'origine hongroise, censé illustrer le complot des élites juives et mondialisées contre les peuples européens. S'agissant de la composante sociale de son action, Fidesz insiste, comme le PIS, sur l'augmentation des allocations familiales, qui constitue, pour des raisons évidentes, la politique emblématique des socio-nativistes. Il a également mis en place des emplois aidés visant à mettre les chômeurs au travail, sous le contrôle des administrations et des maires fidèles au pouvoir. Fidesz entend aussi appuyer le développement des entrepreneurs nationaux et des compagnies hongroises, par exemple en leur réservant des marchés publics, ce qui permet aussi de s'assurer de leur loyauté politique. Ces mesures visent également à montrer que Fidesz sait tenir tête aux principes de rigueur budgétaire et aux règles de la concurrence édictées par les traités européens, contrairement à ses rivaux politiques et en particulier aux sociaux-démocrates régulièrement accusés d'être aux ordres de Bruxelles. En pratique, cela n'empêche pas Fidesz de conserver un vieux fonds autoritaire libéral sur les questions économiques, comme avec la loi adoptée fin 2018, renforçant le pouvoir des employeurs, par exemple, pour imposer des heures supplémentaires. De ce point de vue, les circonstances de l'arrivée au pouvoir de Fidesz en 2010 méritent d'être rappelées. Les élections de 2006 avaient vu, comme en 2002, la victoire serrée des sociaux-démocrates hongrois du MSZP, parti refondé en 1990 et directement issu du parti au pouvoir de 1956 à 1989, le MSZMP, face à la coalition emmenée par Fidesz, alors en pleine ascension. Le leader social-démocrate, Ferenc Gyurcsány, premier ministre hongrois de 2004 à 2009, par ailleurs entrepreneur et l'une des premières fortunes du pays à la suite de privatisations avantageuses réalisées dans les années 1990, prononça, peu après sa réélection de 2006, une allocution au cadre de son parti qui était supposée rester confidentielle, mais qui fit l'objet de fuites dans les principaux médias hongrois. Dans ce discours, Gyurcsány expliquait sans embâche comment il avait menti depuis des mois pour assurer sa victoire, en particulier en dissimulant aux électeurs les coupes budgétaires à venir et selon lui inévitables, notamment dans les dépenses sociales et dans le cadre de la réforme du système de santé. Dès sa révélation publique, ce discours fit l'effet d'une bombe et déclencha une vague de manifestations sans précédent. Le scandale fut habilement exploité par Orbán et Fidesz, qui y voyaient la preuve tant attendue de l'hypocrisie sans limite des sociaux-démocrates. De fait, il s'agissait d'une occasion idéale permettant à un mouvement comme Fidesz, qui était initialement un parti conservateur nationaliste, de faire valoir que sa fibre sociale était plus sincère que celle des soi-disant sociaux-démocrates, accusés d'être devenus de vrais libéraux, pro-marché et pro-élite. Le premier ministre Gyurcsány dut finalement démissionner en 2009 dans un contexte rendu plus compliqué encore par la crise financière de 2008 et les politiques d'austérité budgétaire mises en place dans les pays européens. L'ensemble de la séquence conduisit lors des élections de 2010 à l'effondrement durable des sociaux-démocrates et au triomphe de Fidesz, qui remporta également aisément les législatives de 2014 et 2018. L'émergence du social-nativisme, le cas italien. On aurait bien tort de penser que le développement du social-nativisme serait une spécificité est-européenne, sans conséquence pour l'Europe de l'Ouest et le reste du monde. L'Europe de l'Est constitue, au contraire, un laboratoire portant à son paroxysme deux ingrédients que l'on retrouve ailleurs sous des formes à peine moins extrêmes et qui concourent à l'émergence du social-nativisme. D'une part, un fort sentiment de désillusion post-communiste et anti-universaliste, poussant à de violents replis identitaires. D'autre part, une organisation économique mondiale, et notamment européenne, empêchant la mise en place de politiques coordonnées, efficaces et apaisées, de redistribution sociale et de réduction des inégalités. De ce point de vue, il est particulièrement informatif d'examiner la constitution en Italie, à la suite des élections législatives de 2018, d'une coalition de type social-nativiste. Par comparaison aux autres démocraties électorales occidentales, la première particularité du cas italien est que le système de partis en place dans l'après-guerre s'est violemment effondré à la suite des scandales financiers révélés par les juges antimafia en charge de l'enquête Manipulite, main propre, en 1992. Ces événements provoquèrent la chute des deux partis qui avaient dominé la scène italienne depuis 1945, le Parti de la démocratie chrétienne et le Parti socialiste. À la droite de l'échiquier politique, les démocrates chrétiens furent remplacés dans les années 1990 par un ensemble complexe et changeant de partis, dont le mouvement libéral-conservateur Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Lega, la Ligue du Nord. La Lega était initialement un parti régionaliste et anti-impôt, revendiquant l'autonomie fiscale de la Padanie, l'Italie du Nord, et dénonçant les transferts bénéficiant au sud du pays, jugés paresseux et corrompus. Depuis la crise des réfugiés de 2015, la Lega s'est reconvertie en parti nationaliste et anti-immigré, spécialisé dans la chasse aux étrangers et la dénonciation de l'invasion noire et musulmane menaçant la péninsule. La Lega attire des voix populaires anti-immigrés, surtout dans le Nord, où le parti conserve aussi un socle de cadres et d'indépendants anti-percepteurs. À la gauche de l'échiquier politique, la situation n'est pas plus simple. L'effondrement en 1992 du Parti socialiste et sa dissolution en 1994 ouvrirent un cycle de recomposition et de renouvellement des organisations. Le Parti communiste italien, longtemps le plus puissant d'Europe de l'Ouest avec son homologue français, fut durement atteint par la disparition de l'Union soviétique et décida de se transformer dès 1991 en une nouvelle structure, le PDS, Parti démocratique de la gauche. Le PDS et d'autres mouvements participèrent ensuite à la création du PD, Parti démocrate, en 2007, avec pour ambition d'unifier la gauche à la façon du Parti démocrate aux États-Unis. Après avoir remporté en 2013 l'élection organisée par le PD, parmi ses sympathisants pour choisir un nouveau leader, Matteo Renzi, prit la direction du gouvernement italien entre 2014 et 2016 à la tête d'une coalition menée par le PD. Par-delà les changements de nom, il faut rappeler que la structure de l'électorat des partis de gauche, PS, PC, PDS, PD, s'est totalement transformée en Italie au cours des dernières décennies. Alors que ces partis faisaient leur plus gros score parmi les catégories populaires dans les années 1960 et 1970, la situation s'est par la suite totalement inversée. Dès les années 1980 et 1990, le PS et le PC, puis le PDS, obtenaient de meilleurs résultats parmi les plus diplômés. Cette tendance s'est accentuée pendant les années 2000 et 2010. Lors des élections de 2013 et 2018, le vote pour le PD était de 20 points plus élevé parmi les électeurs les plus diplômés qu'au sein du reste de la population. Les politiques menées par le PD, en particulier l'assouplissement des procédures de licenciement, le Jobs Act, décidé par le gouvernement Renzi peu après son arrivée au pouvoir, qui provoqua une forte opposition des syndicats et d'immenses manifestations, 1 million de personnes à Rome en octobre 2014, contribuèrent à accroître l'impopularité du PD parmi les catégories populaires et les salariés modestes. Le fort soutien public apporté à la réforme par la chancelière allemande chrétienne-démocrate Angela Merkel et la certitude que l'adoption parlementaire reposait de facto sur une coalition de voix entre le PD et Forza Italia ont contribué à asseoir l'idée que le PD n'avait plus grand-chose à voir avec ses origines socialistes-communistes de l'après-guerre. Le dernier venu dans le paysage politique italien est le mouvement 5 étoiles, M5S, fondé en 2009 par l'humoriste Beppe Grillo. Le M5S se présente comme un parti anti-système et anti-élite, inclassable dans les typologies gauche-droite habituelles, mais dont un des leitmotivs est la création d'un revenu de base. Par comparaison au PD, le M5S fait ses plus gros scores chez les électeurs les moins diplômés, dans les catégories populaires du sud du pays et parmi les déçus de tous les partis, séduits par les promesses sur les questions sociales et le développement des régions délaissées. En quelques années, le M5S a réussi à capitaliser sur le mécontentement face aux partis ayant déjà exercé le pouvoir, à commencer par Forza Italia et le PD, et a rassemblé entre un quart et un tiers des suffrages suivant les élections. Lors des élections législatives de 2018, l'électorat s'est divisé en trois grands blocs. Le M5S a obtenu 33% des voix, le PD 23% et la coalition des partis de droite 37%. Cette dernière était elle-même très hétéroclite puisqu'elle comprenait un pôle anti-immigré avec la Lega, 17%, un pôle libéral-conservateur avec Forza Italia, 14%, et d'autres petits partis nationalistes-conservateurs, 6%, oscillant entre les deux. Aucun pôle n'ayant obtenu seul la majorité des sièges, une coalition était nécessaire pour former un gouvernement. Une alliance fut un moment envisagée entre le M5S et le PD, mais la méfiance réciproque était trop forte. Le M5S et la Lega, qui avaient déjà fait cause commune lors de l'opposition au Jobs Act de Renzi au Parlement italien et dans les grandes manifestations de 2014, se sont alors accordés pour gouverner le pays sur la base d'un programme tentant de faire la synthèse entre les deux partis, avec d'une part la mise en place du système de revenu minimum garanti prôné par le M5S et d'autre part la politique anti-réfugiés intransigeante défendue par la Lega. Ces deux piliers s'incarnent dans la nomination du jeune leader du M5S, Luigi Di Maio, au ministère du Développement économique, du Travail et des Politiques sociales, en charge notamment du revenu minimum et des politiques d'aménagement du territoire et d'investissement public dans le sud du pays, alors que le chef de la Lega, Matteo Salvini, occupe le poste stratégique de ministre de l'Intérieur. Cela lui a permis de mener dès l'été 2018 des opérations anti-migrants spectaculaires et en particulier de bloquer tout accès aux côtes italiennes pour les bateaux humanitaires venant en aide aux réfugiés en Méditerranée. La coalition M5S-Lega au pouvoir en Italie depuis 2018, est clairement une alliance politico-idéologique de type social-nativiste qui fait naturellement penser au gouvernement PiS en Pologne et Fidesz en Hongrie. Certes, rien ne garantit la stabilité de l'attelage italien, qui repose à ce jour sur deux piliers qui n'ont aucunement l'intention de fusionner. Les tensions entre les deux partenaires sont d'ailleurs très vives, et tout semble indiquer que le versant nativiste est en passe de l'emporter. Les opérations anti-réfugiés de Salvini lui apportent une popularité croissante et pourraient permettre à la Lega de dépasser le M5S lors des prochaines élections, voire de s'en passer entièrement. Il reste que le simple fait qu'une telle coalition sociale nativiste a pu voir le jour dans une vieille démocratie électorale ouest-européenne comme l'Italie, par ailleurs troisième économie de la zone euro, montre que le phénomène n'est pas limité à l'Europe de l'Est post-communiste. Les responsables sociaux nativistes des différents pays, en particulier Orban et Salvini, n'ont d'ailleurs pas manqué de mettre en scène publiquement leur connivence anti-élite et les perspectives communes qu'ils entendent offrir à l'Europe, à la fois sur le terrain anti-immigré et sur le plan social.